La manière des Blancs. Faire ma cuisine à votre feu et dormir sous votre toit cette nuit. Voilà ce que j'avais dit au vieil Ebitz en entrant dans sa cabine. Lui m'avait regardé d'un œil chassieux et vague, tandis que Zilla m'avait favorisé d'une mine refrognée et d'un grognement de mépris. Zilla était sa femme, et sur le Yukon, on n'aurait pas trouvé une vieille squaw plus implacable ni plus mauvaise langue. Je ne me serais pas arrêté là si mes chiens avaient été moins fatigués ou si le reste du village avait été habité. Mais cette cabine était seule occupée et je fus bien forcé d'y chercher abri. De temps à autre, le vieux Ebitz ralliait ses esprits égarés tandis que des étincelles et signes d'intelligence allaient et venaient dans ses yeux. Pendant la confection de mon souper, il essaya plusieurs fois de me faire des questions polies au sujet de ma santé, de l'état et du nombre de mes chiens, et de la distance que j'avais parcourue ce jour-là. Et chaque fois, Zilla avait pris l'air plus renfrogné et avait grogné avec plus de mépris encore. Cependant, j'avoue qu'il n'y avait rien qui pût les encourager à la joie. Ils étaient là, tous deux, blottis près du feu, à la fin de leur jour, vieux, flétris, sans force, tordus par des rhumatismes, mordus par la faim, et tentés par les odeurs de friture de la viande que j'avais en abondance. Ils se balançaient d'avant en arrière d'un mouvement lent et machinal, et toutes les 5 minutes, régulièrement, Ebitz gémissait sourdement. Ce n'était pas tant un gémissement de douleur que de fatigue causée par la douleur. Il était oppressé par le poids et par le tourment de cette chose appelée vie, et plus encore lui pesait la crainte de la mort. C'était l'éternelle tragédie de la vieillesse qui a perdu la joie de la vie et qui n'a pas encore l'instinct de la mort. Lorsque ma viande de mousse crépita bruyamment dans la poêle, je remarquai que les narines du vieil Ebitz se contractaient et s'ouvraient à l'odeur de la nourriture. Il cessa de se balancer un moment et oublia de gémir, tandis qu'un éclair d'intelligence semblait passer sur sa figure. Zilla, elle, se balançait plus vite et pour la première fois, elle donna voix à sa douleur en petits cris aigus. Il me vint à l'idée qu'ils agissaient comme des chiens affamés, et après tout, je n'aurais pas été étonné si Zilla avait tout à coup laissé voir une queue et l'avait remuée sur le plancher à la façon des chiens. Ebitz cessa à maintes reprises de se balancer pour se pencher en avant et rapprocher son nez palpitant du foyer de ce régal. Quand je leur passais un plat de viande frite, ils mangèrent gloutonnement en faisant du bruit. On entendait le broiement des dents usées, les aspirations sifflantes accompagnées de bredouillements et de marmottements continuels. Après cela, lorsque je leur donnais à chacun une tasse de thé brûlant, les bruits cessèrent. Le soulagement et la satisfaction apparurent sur leur visage. Zilla renonça à sa grimace amère, le temps de donner un soupir de satisfaction. Ni l'un ni l'autre ne se balançaient plus. Ils semblaient être tombés dans une méditation placide. Puis, les yeux d'Ebitz se mouillèrent et je compris que c'était le chagrin de la pitié de soi. Les recherches qu'ils firent pour trouver leur pipe me montrèrent clairement qu'ils avaient été sans tabac depuis longtemps, et la patience du vieux pour le narcotique le rendit impotent au point qu'il me fallut lui allumer sa pipe. « Pourquoi êtes-vous tout seul dans le village » demandai-je. « Est-ce que tout le monde est mort? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de maladies? Êtes-vous les seuls vivants qui restent ?» Le vieux Ebitz se secoua la tête, disant « Non, il n'y a pas eu beaucoup de maladies. Le village est allé chasser pour trouver de la viande. Nous sommes trop vieux. Nos jambes ne sont pas fortes et nous ne pouvons plus porter sur le dos les fardeaux du camp et du voyage. C'est pour cela que nous restons ici et nous nous demandons quand les jeunes hommes reviendront avec la viande. » « En supposant que les jeunes hommes reviennent avec de la viande, » dit Zilla brusquement. « Peut-être reviendront-ils avec beaucoup de viande ?» reprit en chevrotant le vieux. « Et même avec beaucoup de viande, » continua-t-elle plus brusquement encore. « Mais à quoi cela nous servira-t-il, à toi ou à moi? Quelques os à ronger dans notre vieillesse édentée? Mais la graisse, les rognons et les langues, tout cela ira dans d'autres bouches que les nôtres, vieil homme. » Ebitz se remua la tête et en silence pleura. « Il n'y aura personne pour chasser de la viande pour nous » cria-t-elle, se tournant en colère de mon côté. Il y avait une accusation dans son geste, et je haussai les épaules pour montrer que je n'étais pas coupable du crime inconnu dont j'étais accusée. « Sache, homme blanc, que c'est à cause de ta race, à cause de tous les blancs que mon homme et moi n'avons pas de viande dans notre vieillesse, et que nous sommes assis sans abri contre le froid et sans tabac. »« Non, » dit gravement Ebitz, chez qui le sens de la justice était plus marqué. « On nous a fait tort, il est vrai. » Mais l'homme blanc n'avait point l'intention de nous faire du tort. « Où donc est mon clan ? » demanda-t-elle. « Où est ton fils vigoureux, et le poisson qu'il était toujours prêt à apporter afin que tu puisses manger? Le vieux remua la tête. Et où est Bidarchik, ton fils fort? Il était toujours un grand chasseur, et toujours il te rapportait la bonne graisse et les langues séchées du mousse et du caribou. Je ne vois point de graisse, ni de langue séchée. Ton estomac est plein de rien pendant des jours, et il faut que ce soit un homme d'une race misérable et menteuse qui te donne à manger. Non, interposa la vieille Ibis avec bonté. L'homme blanc n'est pas menteur, l'homme blanc dit la vérité, il dit toujours vrai. Il s'arrêta, regardant autour de lui comme pour trouver des mots qui adouciraient la sévérité de ce qu'il allait dire. Mais le blanc dit la vérité de différentes façons. Aujourd'hui, il dit vrai d'une manière, demain, il dira vrai d'une autre manière. Et il est difficile de le comprendre ou de comprendre sa façon. Aujourd'hui, dire la vérité d'une façon, demain la dire d'une autre, c'est mentir, conclut Zila. On ne peut pas comprendre le blanc, continua Ibit s'obstiner. La viande, le thé et le tabac semblaient l'avoir ramené à la vie, et il maîtrisa plus fermement son idée derrière ses yeux chassieux de vaillard. Il se redressa, se raidit, sa voix perdit sa note querelleuse et plaintive et devint ferme et positive. Il se tourna vers moi avec dignité et me parla comme un homme s'adresse à son égal. « Les yeux du blanc ne sont pas fermés, commença-t-il. Le blanc voit toutes les choses. Il pense profondément et est très sage. Mais le blanc d'un jour n'est pas celui du lendemain, et on ne peut pas le comprendre. Il ne fait pas toujours les choses de la même façon. Ce que sera la prochaine action, on ne sait pas. L'Indien fait toujours la même chose de la même façon. Le mousse descend toujours des hautes montagnes quand l'hiver est d'ici. Le saumon vient toujours au printemps lorsque la glace a disparu de la rivière. Chacun fait toutes choses de la même façon, et l'Indien sait et comprend. Mais le blanc ne fait pas de même, et l'Indien ne sait ni ne comprend. Le tabac est très bon, c'est de la nourriture pour l'homme qui a faim. Il rend plus fort l'homme fort, et l'homme en colère oublie son courroux. Le tabac a ainsi une valeur, une grande valeur. L'Indien donne un gros saumon pour une feuille de tabac, et il mâche le tabac pendant longtemps. C'est le jus du tabac qui est bon. Lorsqu'il descend dans la gorge, il donne une agréable sensation en dedans. Mais le blanc, lorsque sa bouche est pleine du jus de tabac, que fait-il? Ce jus d'une grande valeur, il le crache sur la neige, et il est perdu. Est-ce que le blanc aime le tabac? Je ne sais pas. Mais s'il l'aime, pourquoi cracher sa valeur et le perdre dans la neige? C'est une grande folie qu'on ne peut pas comprendre. Il se tut, tira une bouffée de sa pipe, vit qu'elle était éteinte et la passa à Zila, dont les lèvres, renonçant à marquer le dédain de l'homme blanc, se posèrent sur le tuyau de la pipe. Ibitz semblait retomber dans son insensibilité sans avoir achevé l'histoire lorsque je demandai « Qu'admat-il de tes fils, Moklan et Bidarchik? Et comment se fait-il que toi et ta vieille soyez sans viande jusqu'à la fin de vos jours ?» Il sembla sortir d'un sommeil et se redressa avec effort. « Ce n'est pas bon de voler, dit-il. Lorsque le chien prend votre viande, vous battez le chien avec un bâton, c'est la loi. » C'est la loi que l'homme donna au chien, et le chien doit la suivre sous peine de souffrir du bâton. Lorsque l'homme prend votre viande, votre canot ou votre femme, vous tuez cet homme. C'est la loi, et une bonne loi. C'est mauvais de voler. C'est donc la loi que l'homme qui vole mourra. Quiconque enfreint la loi doit souffrir. C'est une grande souffrance que de mourir. Mais si tu tues l'homme, pourquoi ne tues-tu pas le chien? Le vieil Ibitz me regarda avec un étonnement d'enfant. Tandis que Zilla ricanait sans se cacher dans ma question était absurde. C'est la façon des blancs, murmura Ibitz d'un air résigné. C'est la folie des blancs, grogna Zilla. Alors que le vieil Ibitz enseigne la sagesse à l'homme blanc, dis-je doucement. Le chien n'est pas tué parce qu'il doit tirer le traîneau de l'homme. Aucun homme ne tire le traîneau d'un autre homme. C'est pour cela que l'homme est tué. Oh, murmurai-je. C'est la loi, continua le vieil Ibitz. « Maintenant, écoute, homme blanc, et je te conterai une grande folie. Il y a un Indien, son nom est Mobitz. Il vole 2 livres de farine à un blanc. Que fait le blanc? Est-ce qu'il bat Mobitz? Non. Est-ce qu'il le tue? Non. Que fait-il à Mobitz? Je vais te le dire, homme blanc. Il a une maison. Il y met Mobitz. Le toit est bon, les murs sont épais. Il allume un feu pour que Mobitz ait chaud. Il donne à Mobitz beaucoup à manger et de la bonne nourriture. Mobitz n'a jamais mangé si bien de sa vie. Il y a du lard, du pain et des haricots en quantité. Mobitz s'en donna. Il y a une grosse serrure sur la porte afin que Mobitz ne s'échappe pas. Cela aussi est une grande folie. Momitz ne va pas s'en aller, car il a tout le temps beaucoup à manger, des couvertures chaudes et un grand feu. Ce serait bête de s'en aller. Momitz n'est pas bête. Pendant 3 mois, il reste dans cette maison. Il a volé 2 livres de farine, et à cause de cela, le blanc a grand soin de lui. Momitz mange beaucoup de livres de farine, 20 livres de sucre, du lard et des haricots en quantité. Après 3 mois, le blanc ouvre la porte et dit à Momitz qu'il doit s'en aller. Il est comme un chien qui a été nourri longtemps à un endroit. Il veut rester à cet endroit, et le blanc doit chasser Momitz. Ainsi, Momitz se retourne à son village et il est très gras. C'est la façon de faire du blanc, et cela ne se comprend pas. C'est de la folie, une grande folie. Mais tes fils, insistai-je, tes fils si forts, et la faim qui te suit dans tes vieux jours. Il y avait Moklan, commença Ibitz. Un homme fort, interrompit la mère. Il pouvait manier la pagaie toute la journée, toute la nuit, sans jamais s'arrêter pour se reposer. Il connaissait le saumon et il connaissait l'eau. Il était très sage. Il y avait Moklan, répéta Ibitz sans remarquer l'interruption. Durant le printemps, il descendit le Yukon avec les jeunes hommes afin de trafiquer au Fort Campbell. Là, il y a un poste rempli des choses de l'homme blanc et un trafiquant qui s'appelait Jones. Il y a aussi un sorcier blanc que vous appelez un missionnaire. Il y a aussi à Fort Campbell un endroit dangereux où le Yukon devient mince comme une jeune fille. Et les eaux y sont rapides et les courants s'élancent de tous côtés et se rencontrent et il y a des tourbillons et des trous. Les courants changent sans cesse et les eaux changent, de sorte que ce n'est jamais la même chose. Moklan est mon fils, donc il est brave. Est-ce que mon père n'était pas un homme brave ? Demanda Zilla. Ton père était un brave, admit Ibitz, de l'air d'un homme qui veut la paix du foyer à tout prix. Moklan est mon fils et le tien, donc il est brave. Peut-être à cause de ton père qui était très brave. Moklan est trop brave. C'est comme lorsqu'on met trop d'eau dans le pot, il déborde. Ainsi, trop de bravoure dans Moklan, et il déborde. Les jeunes hommes craignent fort les mauvaises eaux de Fort Campbell, mais Moklan n'a pas peur. Il rit tout haut, oh, oh, et va dans les eaux dangereuses. Mais là où les courants se rencontrent, le canot est chaviré. Un tourbillon prend Moklan par les jambes, il tourne et tourne, descend de plus en plus bas, et on ne le revoit pas. Aïe, aïe, gémit Zilla, il était adroit et sage, mon premier-né. Je suis le père de Moklan, dit Ibitz, après avoir patiemment attendu que la femme ait fini sa bruyante interruption. Je montai dans le canot et descendis la rivière jusqu'à Fort Campbell pour me faire payer la dette. La dette, dis-je ? Quelle dette ? La dette de Jones, qui est le chef trafiquant, fut la réponse. C'est la loi lorsque l'on voyage dans un pays étranger. Je secouai la tête en signe d'ignorance. Ibitz me regarda avec compassion, tandis que Zilla renifla dédaigneusement selon son habitude. Écoute, homme blanc, dit-il, dans ton camp, il y a un chien qui mord. Lorsque le chien mord un homme, tu donnes à cet homme un cadeau parce que tu as des regrets et parce que c'est ton chien. Tu payes, n'est-ce pas? De même, s'il y a dans ton pays mauvaise chasse ou des eaux dangereuses, il faut payer. C'est juste, c'est la loi. Est-ce que le frère de mon père n'alla pas au pays de Tanana où il fut tué par un ours? Et est-ce que la tribu de Tanana ne paya pas à mon père beaucoup de couvertures et de belles fourrures? C'était justice. La chasse avait été mauvaise et les gens de Tanana payèrent pour la mauvaise chasse. Donc moi, Ibitz, j'allais à Fort Campbell pour recouvrer la dette. Jones, le chef trafiquant, me regarda et rit. Il rit fort et ne voulut pas payer. J'allais chez le sorcier, vous l'appelez le missionnaire. Il lui parlait longuement des eaux mauvaises et du paiement qui m'était dû. Et le missionnaire causa d'autres choses. Il me parla de l'endroit où était allé Moklan, maintenant qu'il est mort. Il y aurait beaucoup de feu en cet endroit. Si le missionnaire dit vrai, je sais que Moklan, maintenant, n'aura plus froid. Le missionnaire me dit aussi où j'irai quand je mourrai, et il dit de méchantes choses. Il dit que je suis aveugle, ce qui est un mensonge. Il dit que je suis dans une grande obscurité, ce qui est un mensonge. Et je lui réponds que le jour et la nuit viennent également pour chacun, et que dans mon village, il ne fait pas plus obscur qu'à Fort Campbell. Je dis aussi que la clarté et les ténèbres, et où nous allons quand nous mourrons, n'ont rien à faire avec le paiement d'une dette juste pour les zones mauvaises. Alors le missionnaire se mit dans une grande colère, me donna de méchants noms et me dit de m'en aller. Ainsi, je revins de Fort Campbell où on ne me paya point. Et Moklan est mort, et dans ma vieillesse, je suis sans poisson ni viande. Par la faute du blanc, dit Zilla. Par la faute du blanc, approuva Ibitz. Il y a bien d'autres choses qui sont de la faute du blanc. Il y avait Bidarchik. L'homme blanc le traita d'une certaine façon. et pourtant traita Yamikan d'une autre façon. Et d'abord, je dois te dire que Yamikan était un jeune homme de ce village-ci, auquel il arriva de tuer un homme d'une autre race. Ceci a toujours de grosses conséquences. Ce n'était pas la faute de Yamikan s'il tua un blanc. Yamikan parlait toujours doucement et fuyait la colère comme un chien fuit un bâton. Mais ce blanc buvait beaucoup de whisky. Et un soir, il vint à la maison de Yamikan et voulut se battre. Yamikan ne peut pas fuir. Et le blanc veut essayer de le tuer. Yamikan ne veut pas mourir. Alors il tua le blanc. Alors tout le village fut ému. Nous craignions fort d'avoir à payer une grosse somme aux parents du blanc. Nous cachons donc nos couvertures, nos fourrures et toute notre richesse afin de paraître pauvres et de ne payer qu'une petite somme. Longtemps après arrivent les blancs. Ce sont des soldats. Ils emmènent Yamikan avec eux. Sa mère fait grand tapage et met des cendres dans ses cheveux, car elle sait que Yamikan est mort. Tout le village le sait et se réjouit de ce qu'aucune somme n'est demandée. Cela se passa au printemps, alors que la glace a disparu de la rivière. Un an se passe, 2 ans. Le printemps est revenu, la glace a disparu. Alors Yamikan, qui est mort, nous revient. Il n'est pas mort et il est très gras, et nous savons qu'il a dormi chaudement et qu'il a eu beaucoup à manger. Il a de beaux habits. Et c'est tout comme un blanc. Il a acquis beaucoup de sagesse, de sorte qu'il est vite chef de village. Il a d'étranges choses à raconter sur les façons du blanc, car il a vu beaucoup de blancs et a voyagé beaucoup dans leur pays. D'abord, le soldat blanc l'emmène loin en descendant la rivière. On l'emmène jusqu'au bout de la rivière, là où elle tombe dans un lac qui est plus grand que toutes les terres et plus grand que le ciel. Je ne sais pas si le Yukon est une si grande rivière, mais Yamikan a vu cela de ses propres yeux. Je ne pense pas qu'il y ait un lac plus grand que toutes les terres et que le ciel. Mais Yamikan a vu. Il m'a aussi dit que les eaux de son lac sont salées, ce qui est étrange et impossible à comprendre. Mais le blanc connaît toutes ces merveilles lui-même, et je ne le fatiguerai pas en lui racontant. Seulement, je veux lui dire ce qui arriva à Yamikan. Le blanc donna à Yamikan beaucoup de bonne nourriture. Tout le temps, Yamikan mangea, et il y en a toujours encore. Le blanc vit sous le soleil, d'après ce que dit Yamikan, dans un pays où il y a beaucoup de chaleur. Les animaux n'y ont que des poils, non pas de la fourrure, et les plantes vertes deviennent grandes. Et là poussent de la farine, des haricots et des pommes de terre. Et sous le soleil, la famine n'existe pas. Il y a toujours beaucoup à manger. Moi, je ne sais pas, c'est ce que Yamikan dit. C'est ici que de choses étranges arrivent à Yamikan. Le blanc ne lui fit jamais aucun mal. On lui donna un lit chaud la nuit et beaucoup de belles nourritures. On le mena au travers du grand lac salé qui est aussi grand que le ciel. Il est sur le bateau à feu du blanc, ce que vous appelez steamboat. Mais le bateau est 20 fois plus grand que le steamboat sur le Yukon. Ce bateau est fait en fer et pourtant il ne coule pas. Cela, je ne le comprends pas. Mais Yamikan a dit, j'ai voyagé loin sur le bateau de fer, et regardez, je suis encore vivant. C'est le bateau pour les soldats des blancs avec beaucoup de soldats à bord. Après maintes nuits de voyage, longtemps, longtemps après, Yamikan arrive dans un pays où il n'y a pas de neige. Cela, je ne puis pas le croire. Ce n'est pas dans la nature des choses que lorsque l'hiver vient, il n'y ait pas de neige. Mais Yamikan a vu. J'ai demandé aux blancs et ils ont dit qu'il n'y a pas de neige dans ce pays. Mais je ne puis le comprendre. Et maintenant, je vous demande si la neige ne tombe pas dans ces contrées. Je voudrais aussi savoir le nom de ce pays. Je l'ai entendu déjà, mais je voudrais l'entendre encore si c'est le même. Je saurai ainsi si j'ai entendu des mensonges ou la vérité. Le vieil Ibitz me regarda avec envie. Il lui fallait la vérité à tout prix, quoique son désir fût de garder sa foi en cette chose merveilleuse qu'il n'avait jamais vue. « Oui, répondis-je, c'est la vérité que vous avez entendue. Il n'y a pas de neige dans ce pays, et son nom est Californie. »« Cal-i-forme-i » murmura-t-il 2 et 3 fois, écoutant avec attention le soin des syllabes tandis qu'elles tombaient de ses lèvres. « Oui, c'est le même pays dont Yamikan a parlé. » Je compris que la voiture de Yamikan était arrivée alors que l'Alaska venait de passer aux mains des États-Unis. Un cas de meurtre de cette nature, arrivant avant l'établissement de tribunaux sur le territoire, aurait été jugé aux États-Unis devant la Cour fédérale. Quand Yamikan arriva dans le pays où il n'y a pas de neige, continua le vieil Ibitz, on l'emmena dans une grande maison où de nombreux hommes parlent beaucoup. Ils parlent pendant longtemps et demandent à Yamikan beaucoup de questions. Plus tard, ils lui disent qu'on ne lui donnera plus de tracas. Yamikan ne comprend pas, parce qu'on ne l'a jamais tracassé. Car tout le temps, ils lui ont donné une place chaude pour dormir et beaucoup à manger. Mais après cela, ils lui donnèrent de la nourriture encore meilleure. Ils lui donnèrent de l'argent. le meneur dans beaucoup d'endroits du pays des Blancs, et il vit beaucoup de choses étranges qui sont au-delà de la compréhension des Beats, qui est un homme vieux et qui n'a pas voyagé loin. Après 2 ans, Yamikan retourne à son village, il devient le chef plein de sagesse jusqu'à sa mort. Mais avant de mourir, il s'assied souvent près du feu et raconte les choses étranges qu'il a vues. Et Midarchik, qui est mon fils, s'assied près du feu et écoute. Et ses yeux s'agrandissent à cause de ce qu'il entend. Un soir, après que Yamikan est rentré chez lui, Midarchik se lève comme cela, très grand, et se frappant la poitrine avec son poing, il dit « Quand je serai un homme, je voyagerai au loin, même jusqu'au pays où il n'y a pas de neige, et je verrai les choses de mes propres yeux. » Midarchik a toujours fait des voyages lointains, interrompit-il fièrement. Cela est vrai, opina Ibitz gravement, et toujours elle revint pour s'asseoir près du feu et soupirer après d'autres pays plus lointains encore. Et toujours il s'est rappelé le lac salé qui est aussi grand que le ciel et le pays sous le ciel où il n'y a pas de neige, dit-il. Et toujours il a dit, quand j'aurai toute la force d'un homme, j'irai voir moi-même si les paroles de Yamikan sont vraies, dit Ibitz. Mais il n'y avait pas moyen d'aller au pays des Blancs, dit-il. N'est-il pas allé jusqu'au lac salé aussi grand que le ciel? Demanda Ibitz. Mais il n'y avait pas moyen pour lui de traverser le lac, dit-il. Excepté dans le bateau à feu des Blancs qui est fait en fer et qui est plus grand que 20 steamboats du Yukon, dit Ibitz. Il regarda d'un air renfrogné Zilla, dont les lèvres flétries se déformaient pour parler, et lui imposa le silence. Mais le Blanc ne voulait pas le laisser traverser le lac dans le bateau à feu. Et il revint au foyer, soupirant après le pays sous le soleil où il n'y a pas de neige. Pourtant, il avait vu sur le lac salé le bateau à feu fait en fer et qui ne coulait pas, cria Zilla l'irrépressible. Oui, dit Ibitz. Il vit que Yamikan avait dit vrai en parlant de ce qu'il avait vu. Mais il n'y avait aucun moyen pour que Midarchik voyageât au pays des Blancs, et il devint malade et découragé, comme un vieil homme, et ne voulut pas quitter le feu. Il ne sortit plus pour tuer de la viande. Il ne mangea pas non plus la viande qu'on plaçait devant lui, ajouta Zilla. Il secouait la tête et disait « Je ne veux que manger la nourriture du Blanc et engraisser comme Yamikan. » Et il ne mangea pas la viande, continua Ibitz. Et la maladie de Midarchik augmenta à tel point que je crus qu'il allait mourir. Ce n'était pas une maladie du corps mais de la tête. C'était une maladie du désir. Moi, Ibitz, son père, je fis une grande réflexion. Je n'ai plus de fils et je ne veux pas que Midarchik meure. C'est une maladie de la tête et il n'y a qu'une chose pour la guérir. Il faut que Midarchik fasse le voyage au travers du lac grand comme le ciel, dans le pays sous le soleil et où il n'y a pas de neige. Je pense longtemps et alors je vois un moyen. Ainsi, un soir qu'il était assis près du feu, très malade, la tête basse, je lui dis « Mon fils, j'ai appris le moyen pour que tu ailles au pays des Blancs. » Il me regarde et sa figure est joyeuse. « Va, dis-je, comme Yamikan est allé. Mais Midarchik est malade et ne comprend pas. Va, dis-je, et trouve un Blanc, et comme Yamikan, tue-le. Alors le soldat Blanc viendra te prendre, et comme ils l'ont fait pour Yamikan, ils t'emmèneront au travers du lac au pays des Blancs. Ainsi, comme Yamikan, tu deviendras très gras, les yeux pleins de ce que tu auras vu, et la tête pleine de sagesse. » Et Midarchik se lève vite, et sa main se tend pour saisir son fusil. « Où vas-tu, dis-je ? Tu es le Blanc, répondit-il. Et je vois que mes paroles ont été bonnes pour les oreilles de Midarchik, et qu'il va retrouver la santé. Je vois aussi que mes paroles ont été sages. Un Blanc vint dans le village. Il ne cherchait pas de l'or dans le sol ni des fourrures dans la forêt. Il cherche tout le temps des mouches et des scarabées. Il ne mange ni les mouches ni les scarabées. Pourquoi les recherche-t-il? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est un Blanc drôle à voir. Il cherche les œufs des oiseaux. Il ne mange pas les œufs. Tout ce qui est à l'intérieur, il le retire et ne garde que la coquille. Les coquilles d'œufs ne sont pas bonnes à manger. Il ne les mange pas non plus, mais les met dans des boîtes molles où elles ne se casseront pas. Il attrape beaucoup de petits oiseaux. Il ne prend que les peaux et les met dans des boîtes. Il aime aussi les os. Les os ne sont pas bons à manger. Cet homme étrange préfère les os du vieux temps, qu'il déterre du sol. Mais il n'est pas un Blanc dangereux, et je sais qu'il mourra très facilement. Alors je dis à Midarchik, « Mon fils, voici le Blanc que tu dois tuer. » Et Midarchik dit que mes paroles sont sages. Alors, il va à un endroit où il sait qu'il y a beaucoup d'os dans le sol. Il déterre beaucoup de ses os et les apporte au camp de l'étrange homme Blanc. Le Blanc est très heureux. Sa figure lui comme le soleil. Il sourit avec beaucoup de bonheur en regardant les os. Il baissa la tête ainsi pour bien voir les os. Et alors, Midarchik le frappa fortement sur la tête, avec la hache une seule fois comme cela. Et le blanc étrange donna un coup de pied et meurt. « Maintenant, dis-je à Midarchik, le soldat blanc va venir te prendre et t'emmener dans le pays sous le ciel où tu mangeras beaucoup et deviendras gras. » Midarchik est heureux. Sa maladie a déjà passé. Il est assis près du feu et attend la venue des soldats blancs. « Comment pouvais-je savoir que la manière du blanc n'est jamais deux fois la même ?» demanda le vieux, se tournant vers moi avec férocité. « Comment pouvais-je savoir que ce que le blanc a fait hier, il ne le fera pas aujourd'hui, et ce que ce qu'il fait aujourd'hui, il ne le fera pas demain ?» Et Bit se secoua la tête tristement. Impossible de comprendre le blanc. Hier, il emmène Yamikan au pays qui est sous le soleil et l'engraisse avec beaucoup de nourriture. Aujourd'hui, il prend Midarchik. Et qu'en fait-il ? Laisse-moi te dire ce qu'il fait de Midarchik. Moi et Bit, son père, je vais te le dire. Il emmène Midarchik à Fort Campbell, noue une corde autour de son cou. Ainsi, lorsque ses pieds ne sont plus sur le sol, il meurt. Aïe, aïe, pleura Zilla. Et jamais il ne traverse le lac, grand comme le ciel, il ne voit le pays sous le soleil où la neige ne descend jamais. C'est ainsi, dit le vieil Ibitz avec une dignité grave, qu'il n'y a personne pour chasser la viande pour moi dans ma vieillesse. Je m'assieds près du feu et dis mon histoire au blanc qui m'a donné la nourriture, du thé fort et du tabac pour ma vie. À cause du blanc, misérable et menteur, dit Zilla. Non, répondit le vieux positif avec douceur. C'est à cause de la manière du blanc qu'on ne comprend pas. Et qui n'est jamais deux fois la même.